Ésaïe, chapitre 58, nous lirons du verset 11 au verset 14. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies et en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Amen. Certains ont trouvé la solution pour pas être embêtés. Là, vous habitez là, vous n'êtes pas embêtés, hein? Je pense pas qu'on vient vous vendre des aspirateurs. Hein. Là, vous êtes tranquille. On voit même pas de route. Hein. Je ne sais pas si vous voyez une route, vous. Ça se trouve en Grèce. C'est ce qu'on appelle les météores. Une succession de pics comme ça, rocheux. Et au sommet de ces pics rocheux, il y a divers monastères qui ont été installés là. Donc, ils ont trouvé la planque. Hein. On ne va pas venir les déranger, comme j'ai dit. Ils sont bien là-haut. Et vous voyez bien la différence entre la perspective, hein, la montagne, et regardez en bas, c'est la ville. Donc vous voyez quand même qu'il y a un sacré dénivelé pour aller jusque là-haut. D'ailleurs, certains de ces endroits, on peut les atteindre en voiture. On peut garer la voiture pas très loin. Mais d'autres, il faut un funiculaire, un téléphérique. Vous n'y arrivez pas. Hein. Et d'ailleurs, à une époque, pour être ravitaillé, on récupérait tout ça, c'était un monte charge qui amenait la nourriture là-haut. Mais je me dis quand même qu'il devait avoir une sacrée belle vue de là-haut. Hein. L'air était peut-être moins pollué quand même. Prendre de la hauteur, c'était le thème que je voulais partager avec vous, parce que c'est Ésaïe qui le dit, « Tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et ça c'est de la part de Dieu, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. » Alors, je me suis posé la question, j'ai réfléchi, est-ce que dans la Bible, il n'y a pas des personnes qui ont gravi des sommets, qui ont dû monter plus haut? Est-ce que certains n'ont pas même été obligés par Dieu à monter plus haut? Et on en trouve, forcément, on en trouve quelques-uns. Et ça vous est déjà arrivé d'avoir le sentiment que Dieu voulait vous faire aller un petit peu plus haut, eh bien, j'aimerais vous citer l'exemple de quelqu'un qui, avant vous, a été appelé par Dieu plus haut, c'est Moïse. Moïse, on connaît son histoire dans le livre du Deutéronome. Je vais vous citer là quelques versets dans Deutéronome chapitre 34. C'est au moment d'ailleurs où il mourra. Il est dit ceci. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays. Il va bientôt mourir, il n'entrera pas dans la terre promise, et pour qu'il ait quand même une vision réelle de ce que Dieu allait faire, Dieu va lui donner un privilège, le privilège justement d'aller plus haut et de pouvoir s'élever. Et quand il est monté sur cette montagne, il a eu une vision à la fois naturelle, il a vu, mais il a eu aussi une vision spirituelle. Et Dieu lui a fait voir la terre promise, tout le pays promis, le pays de Canaan, du nord au sud, d'est en ouest. Sur toutes les frontières, il a pu constater que le pays que Dieu avait réservé à son peuple était un beau pays. Il allait sortir de 40 ans de désert, c'était un moment pénible et difficile. On sait que lui a subi quand même ce passage du désert, mais il l'a fait avec consécration, et il est évident qu'en faisant cela, Dieu a voulu le récompenser en lui disant « Regarde, tu n'as pas travaillé en vain. Tout ce que tu as fait, ça a été utile. Il y avait un but à cela, il y avait un intérêt derrière cela. Donc il l'a emmené plus haut pour renouveler sa vision, renouveler ses forces, on l'imagine. D'ailleurs, Moïse va lutter un moment parce qu'il espérait bien entrer dans la terre promise, mais ça ne fonctionnera pas. Dieu n'est pas d'accord à ce qu'il monte. Et jusque dans la terre promise, il devait rester dans ce désert, en fait, un symbole s'arrêter et puis à nouveau aller démarrer avec Josué, l'image de Jésus qui, le libérateur, le sauveur, fait vraiment entrer, évidemment, dans la terre promise. Je mets en parallèle un texte dans le livre de l'Exode, précisément, au moment où Moïse va débuter son ministère dans le désert. Il est dit ceci, « Le troisième mois, après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. » En disant, tu parleras ainsi à la maison d'Israël, etc., etc., etc. Et puis un peu plus loin, verset 19, le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. C'est là. J'ai envie de dire, loin des bruits de la terre, et loin des bruits d'en bas, que Moïse a reçu la loi, que Moïse a eu ce contact privilégié avec Dieu. C'est là, quand finalement il a été transporté plus haut, quand il a été emmené plus haut, que Moïse a reçu ses plus grandes révélations. Il y a eu les 10 commandements, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la construction du tabernacle. Il y a eu toute cette vision de la sainteté de Dieu, de la majesté de Dieu. En fait, il me semble qu'on peut mettre en parallèle le fait qu'il a vu tout cela parce que Dieu l'a élevé. Il a vu tout cela parce que Dieu l'a emmené plus haut. S'il était resté en bas, il n'aurait peut-être pas vu toutes ces choses-là. Il n'aurait pas eu, on va dire, la tranquillité d'esprit pour découvrir ces choses-là. C'est un rendez-vous personnel, c'est un rendez-vous tout seul. Et il me semble qu'on peut s'élever en groupe, mais à un moment donné, la démarche est personnelle. C'est tout seul que l'on s'élève vers Dieu, c'est tout seul que l'on décide de prendre de la hauteur. Quelque part, lorsque Dieu renouvelle une vision, lorsque Dieu renouvelle notre foi, notre espérance, vous comprenez bien que c'est pour saisir l'accomplissement, où est-ce que Dieu veut nous emmener, le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est quelque chose de très vaste. On croit tous au plan de Dieu. Vous y croyez au plan de Dieu ? On croit tous au plan de Dieu. Mais comment il va se manifester dans notre vie ? Comment ça va se faire ? Qu'est-ce qu'on va vivre ? Qu'est-ce qu'on va expérimenter ? Qu'est-ce qu'on n'aura jamais ? Qu'est-ce qu'on aura sans demander ? Qu'est-ce qu'on va obtenir ? Tout ça, c'est très vaste. Et il est évident que pour mieux le cerner, ça peut paraître étonnant, mais il faut juste prendre de la hauteur. D'ailleurs, j'ai le sentiment que, si vous vous souvenez de cette première image que je vous ai montrée, des fameuses météores, j'ai l'impression que quand on est là-haut et quand on regarde en bas dans la ville, on ne doit pas voir qui fait du vélo dans quelle rue. Hein. C'est trop loin. Ou alors il faut des jumelles, il faut une longue vue. C'est pas possible. Et pourtant, Dieu nous dit, plus tu t'élèves et plus tu verras clair. Plus tu verras précisément. Ça vous montre bien que l'expérience, elle n'est que spirituelle. Elle n'est pas naturelle et ce n'est pas par nos forces, mais c'est par sa grâce que c'est possible. Je note également... C'est peut-être un détail, mais c'est quand même la volonté de Dieu de nous tirer vers le haut, de nous faire prendre de la hauteur. En général, quand des enfants se retrouvent à la campagne, quand des enfants sont invités à un anniversaire ou quand ils jouent et qu'ils veulent faire une cabane, en général, ils la font où ? C'est marrant, hein ? Ils la font dans les arbres. En général, sauf s'il n'y a pas d'arbre. Mais en général, ils vont essayer de trouver un arbre et hop, on va faire la cabane en hauteur. On veut toujours la faire là, on ne veut pas la faire en bas. À votre avis, pourquoi ? Pour eux déjà, une cabane pour eux, pas pour les oiseaux. Une cabane pour eux, pourquoi ? Pour être en sécurité. On se dit, là, on ne voit pas, là, je suis caché, là, je suis bien. Et on ne pourra pas venir. Parce que s'il y a un autre qui veut monter, on le fait descendre. C'est ma cabane, hein. Tu ne montes pas. Hein. On se sent en sécurité, mais juste un petit peu plus haut. Je pense que ce n'est pas anodin. Mais plus vous prendrez de la hauteur, plus vous serez en sécurité. Plus vous chercherez et vous laisserez Dieu vous élever en somme. Et plus il vous mettra en sécurité. D'ailleurs, souvenez-vous, ce texte d'Ésaïe quand même, hein, parce que c'est le point de référence, ce texte d'Ésaïe, « Je te ferai jouir de l'héritage, car la bouche de l'Éternel a parlé. Je te ferai monter sur les hauteurs du pays, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. » On terminera tout à l'heure avec un texte d'Habacuc qui rappelle que sur les hauteurs, il y a vraiment ce sentiment de sécurité. Et je crois qu'en tant que, si un enfant fait sa cabane dans les arbres, à plus forte raison un enfant de Dieu, ce que nous représentons, nous devons prendre de la hauteur et il nous faut nous emparer de ces victoires qui nous sont nécessaires pour vivre. Ça donne de la vie à notre âme. Et notre âme en a besoin, bien évidemment. Alors, sans Dieu, j'ai l'impression que la vie, c'est de la survie, sans Dieu. Tandis qu'avec Dieu, j'ai l'impression que c'est vraiment vivre, ça. Donc, si vous voulez vraiment vivre, il vous faut goûter à cela. Et je crois qu'avec Dieu, c'est une vie riche et c'est une vie abondante. Alors, on peut se poser la question, de quel héritage Ésaïe parle-t-il ? Il te donnera l'héritage de Jacob et d'Israël, de ton peuple, il te confiera cet héritage-là. Nous n'avons pas le même héritage parce que nous ne sommes pas issus, pour la majorité d'entre nous, de ce peuple. Donc nous ne considérons pas la grâce simplement sous le regard du judaïsme, évidemment. Mais quel est l'héritage que Dieu accorde à tous ses enfants, enfants de Dieu ? Il y a une permanence que l'on trouve également dans l'Écriture, c'est que des hommes ont vécu des moments particuliers dans des chambres hautes. Il y avait les palais, il y avait les maisons, il y avait les bâtisses, et puis il y avait le rez-de-chaussée, puis il y avait l'étage. Et quelquefois, on a construit un étage, et ainsi, en construisant une chambre sur le toit, on a appelé facilement cette pièce la chambre haute, parce qu'elle est en hauteur. Certains avaient dans leur palais construit déjà plusieurs niveaux, et quand ils voulaient rentrer quelquefois dans leurs appartements, ils quittaient le palais au rez-de-chaussée, et puis ils montaient à l'étage. C'était chez eux. C'était l'endroit où ils étaient dans l'intimité, ça leur appartenait. Alors je me suis intéressé à ces quelques chambres hautes que l'on trouve dans l'Écriture, et il y en a quelques-unes, je ne les ai pas toutes répertoriées, bien évidemment, mais il y en a quelques-unes, et on va s'arrêter à ces chambres hautes et voir ce qui s'est passé dans ces chambres hautes, et s'il n'y a pas quelque chose que l'on pourrait trouver dans ces chambres hautes, et si ce n'est pas un lieu où il faut nous y rendre, ces fameuses chambres hautes. Pas toutes, mais certaines tout de même. La chambre haute la plus célèbre, ce que l'on a appelé le Cénacle, à Jérusalem, sur le mont Sion, là où Jésus aurait pris la dernière Pâque avec ses disciples. On trouve ce texte dans l'évangile de Matthieu, notamment. Plusieurs évangiles rappellent cet événement, mais vous avez le texte à l'écran dans l'évangile de Marc, au chapitre 14. Il est dit, à partir du verset 12, « Le premier jour des pains sans levain où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui dirent, « Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque ?» Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, « Allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, « Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée et toute prête, c'est là que vous nous préparerez la Pâque. » Les disciples partirent, arrivèrent à la ville et trouvèrent les choses comme il leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. La première chambre haute, je ne pouvais pas commencer sans citer celle-ci, bien évidemment. Première chambre haute dans laquelle il nous faut pénétrer, c'est celle où se trouve Jésus, bien évidemment. C'est la plus importante pour nous. Je me dis que dans cette chambre haute, Il s'est passé un événement unique, ça a été nouveau. Jésus avait déjà pris la Pâque chaque année, il devait le faire. La Pâque avec ses disciples, évidemment. Mais cette Pâque va se transformer en une nouvelle Pâque. À savoir que quand on aura pris le pain, les herbes amères, quand on aura fait le repas de Pâques, Jésus va à nouveau prendre du pain et il va faire un parallèle en disant « Voyez ce pain que je vais rompre et que je vais partager avec vous. Eh bien, c'est mon corps qui sera brisé dans peu de temps. » Puis il va prendre une de ces fameuses coupes qui était à table, coupe de vin, et il va à nouveau la prendre et la distribuer avec les disciples réunis en disant « Cette coupe, c'est l'alliance en mon sang. Elle représente mon sang qui va être versé dans peu de temps. » Il faut quand même vous dire que les disciples avaient été prévenus que Jésus allait mourir, mais ils ne captaient pas du tout ce message. Ça ne rentrait pas dans leur tête, c'était impossible. Jésus ne pouvait pas mourir, c'est quand même le roi. D'ailleurs, quand Jésus institue la scène, que l'on appellera plus tard la Sainte Cène, ce dernier repas, il faut quand même vous souvenir qu'à l'esprit, les disciples ont encore les cris, les louanges, parce qu'on venait de chanter « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». La foule avait jeté des branches de palmiers sur le passage, certains avaient acclamé, les enfants couraient. Donc c'était un moment d'excitation. C'est le roi qui entre dans Jérusalem. Porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. On citait les psaumes. Parce qu'on savait que Jésus était vraiment le Messie, le roi. Donc ils sont loin, absolument, très très loin de cette réalité que Jésus va mourir. Mais il faut qu'ils soient bien informés de la chose, il faut qu'ils s'en souviennent. C'est là que Jésus va livrer ce qu'il connaît de la vie de ces gens-là. D'ailleurs, il va dire « Celui à qui je vais donner le pain que j'ai trempé, c'est celui-là qui va me livrer maintenant. » Judas est avec eux, hein. Judas est avec eux. Plusieurs s'étonnent, certains sont tristes, d'autres posent la question, est-ce moi, est-ce moi? Un moment d'intimité, rare moment d'intimité. Hein. Si les évangélistes, si Matthieu, si Jean n'avaient pas rappelé ces événements-là, on n'aurait pas cette scène-là, on ne l'aurait pas. Ça ne s'est pas fait en public, ça s'est fait en privé. Il me semble que tous les jours... Il nous faut entrer dans cette chambre haute où se tient Jésus, notre Maître. Tous les jours, il faut y aller. On a besoin de cette intimité avec Christ. Si on échappe à cette intimité, on est rattrapé par les bruits de la terre. Et ça va tellement vite. L'apôtre Paul disait, et je mets cela en parallèle, dans sa lettre aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 1er, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ ». Est-ce que beaucoup peuvent le dire ce matin, cela, je suis ressuscité avec Christ? Levez la main, voir. Ça fait pas mal, hein? Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Si je veux entendre Jésus me parler, peut-être faut-il que je m'élève jusque dans la chambre haute, que j'aille retrouver ce temps de grâce, ce temps d'intimité, ce temps rare et précieux, ou privilège, où je me trouve dans la présence de Christ. Rien ne remplace sa présence. On peut meubler le temps avec de la musique, on peut meubler le temps dans des grandes discussions, mais rien ne remplace la présence de Dieu. Il m'est arrivé quelquefois de réaliser qu'on s'était fait attraper par le temps, il suffit que l'on passe un moment avec des amis, on les a invités à la maison, ou on s'est retrouvé quelque part, et on va passer du temps. On va passer une demi-heure, on va passer une heure, on va passer deux heures, on va passer trois heures, on va passer quatre heures, on va manger, on va déjeuner, on va souper, on va faire tout ce que vous voulez. Et puis tout à coup, on va se dire, oulala, il est tard, au revoir à demain, ou au revoir à la prochaine. On n'aura même pas prié. C'est fou, hein? Parce que le temps passe et le temps est meublé, forcément. Alors, il nous est arrivé quelquefois, quand on y a pensé, c'est fou qu'on n'y pense pas toujours, hein, de se dire, avant qu'il ne soit trop tard, et si on priait, si on montait dans la chambre haute, si on allait dans cette intimité avec Dieu, ça fait toujours du bien, hein, c'est pas vrai? Ça fait toujours du bien. Alors on aura dit de belles choses, on aura parlé de bonnes choses, on se sera fait du bien. Mais tout de même, la chose la plus précieuse, c'est toujours d'aller dans la chambre haute. Alors on n'est pas mystique, on ne va pas finir au météore. On ne va pas aller se mettre en haut d'une montagne en disant « là, je suis très haut, donc je suis certainement très spirituel et plus rien ne peut m'atteindre ». Ce n'est pas ça le but. Mais le but, c'est de ne jamais manquer un rendez-vous avec Christ. Il me semble que quand je regarde mon agenda, je n'ai peut-être pas noté tous les jours que j'avais un rendez-vous avec Dieu. Mais je suis persuadé que dans l'agenda du ciel, tous les jours, il y a écrit « j'ai un rendez-vous avec Stéphane ». On le sait qu'il existe ce rendez-vous. Donc ne le négligeons pas, même si on n'a pas besoin de le noter lundi, mardi. N'oublie pas, tu as un rendez-vous avec Dieu. Mais n'oublions pas ce rendez-vous et prenons-le. Prenons-le ce temps, ça peut être bref, ça peut être long. Prenons-le ce temps. C'est le préambule. On va aller vers David qui, lui, un jour est rentré dans sa chambre haute, sa chambre qui était au-dessus de la porte. Il nous est dit que dans ce moment d'histoire, deuxième livre de Samuel au chapitre 18, David est en souci. David est en souci quant à l'issue d'une bataille. Son fils, un de ses fils, Absalom, a soulevé une partie du peuple et a levé la révolte contre son père. David a été obligé de fuir Jérusalem. Il dira même « fuyons pour sauver notre vie, sinon pas de salut pour aucun d'entre nous ». Alors il va s'enfuir. Ça va pleurer sur les côtes de Bachurim, on va pleurer, on va se lamenter. Un homme va même, qui en voulait à David, va même suivre le cortège triste. Mais lui n'est pas triste, il est en colère, il jette de la poussière en l'air, il jette des cailloux contre David en disant « bien fait pour toi ». C'est un moment d'opprobre, c'est un moment de nuit, de ténèbres, d'obscurité qui est tombé sur le royaume d'Israël et sur David. Et David s'en va. Et David assure ses arrières. Si on vient lui faire la guerre, il faut qu'il se défende et il va se défendre. Et à un moment donné, voulant partir à la bataille, au combat, ses propres chefs d'armée, Joab et d'autres, vont lui dire « non, non, tu viens pas à la bataille avec nous, tu restes à l'endroit où tu te trouves parce que si on s'en sort pas, il faudra que tu viennes nous secourir. Mais par contre, si tu venais, le fort de la bataille se concentrerait sur toi, pas sur nous, et il faut que tu vives. » Alors il envoie ses troupes avec une seule recommandation. On vient vous faire la guerre. Et j'ai pas oublié qu'à la tête de cette armée, il y a mon fils Absalom. Prenez soin de mon fils Absalom. C'est quand même un mutin. C'est quand même un adversaire. C'est quand même quelqu'un qui veut sa mort. C'est quand même quelqu'un qui lui fait la guerre. Mais dans un autre sens, ça reste son fils. Ça reste son fils. Alors il va demander... Prenez soin, ayez garde, ayez soin d'Absalom. Alors il est en souci, bien évidemment, et ce qui devait arriver arriva, c'est que l'avantage, à un moment donné, va tourner en faveur de l'armée de David, et quand Joab en aura l'occasion, le général, quand il en aura l'occasion, il ne va pas s'y prendre à deux fois, et quand on va lui dire que Absalom s'est pris les cheveux dans des branches d'un arbre dans la forêt un petit peu plus loin, il s'étonne qu'on n'a pas tué Absalom, il y va en courant, et il va lui planter des javelots dans le cœur. Pourtant, il savait qu'il fallait conserver la vie d'Absalom, mais une fois, on avait conservé la vie d'Absalom une fois, Absalom lui avait fait une crasse, avait brûlé ses terres, et lui n'a pas pardonné. Donc il va le tuer, il va le tuer. Alors on vient porter la nouvelle à David, et quand le messager arrive pour dire l'issue de la bataille, les premiers mots de David et Absalom, et là, la nouvelle tombe, que tous tes adversaires soient comme Absalom. Il a bien compris, hein, on a tué Absalom. Et là, regardez sa réaction, saisie d'émotion, il monta dans la chambre, sa chambre haute, la chambre au-dessus de la porte, et il va pleurer. Il disait en marchant, « mon fils Absalom, que ne suis-je mort à ta place, Absalom, mon fils, mon fils. » On va l'entendre de la rue. On va l'entendre de la rue. C'est abominable en quel état il se trouve à ce moment-là. Parce que tout simplement, c'est un moment terrible pour David. On a tous vécu des moments difficiles. On a tous vécu des moments terribles. Et quand on vit des moments comme cela, on a souvent comme réaction de se replier sur soi. C'est une attitude de repli, comme pour se sécuriser, comme pour éviter d'affronter la situation. On va se replier. Et il s'est replié. Il s'est enfermé dans sa chambre. Sauf que dans sa chambre, il n'y a pas la solution. Pourtant, c'est une chambre haute. Mais ce n'est pas la solution. Parce qu'il est en train de s'isoler. Il est en train de pleurer sa détresse. Il a besoin de crier sa douleur. Il souffre. Il vit un moment qui est terrible, un moment d'accablement épouvantable. Néanmoins, il veut être seul. Mais il n'a toutefois pas les ressources, me semble-t-il, nécessaires pour se relever de ce drame qu'il vient de vivre. Tous ceux qui ont perdu un être cher savent qu'on ne se relève pas tout seul d'une épreuve comme ça. On a besoin de la grâce de Dieu. On a besoin d'une action miraculeuse. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Alors, aller chercher la présence de Dieu dans sa chambre haute, c'est bien. Mais si c'est juste pour s'isoler des autres, et puis pour pleurer, se lamenter, se replier sur soi, sans aller vers Dieu pour réclamer du secours, ça ne fonctionnera pas. D'ailleurs, il y est resté un moment, et ça a fait dire à Joab et à d'autres qu'il fallait que David arrête, parce que le peuple n'allait plus comprendre. C'est notre ennemi, on l'en a débarrassé, il nous en veut, mais qu'est-ce qui se passe? Finalement, quand on essaie de se relever tout seul, on a quelquefois des attitudes incompréhensibles. On a quelquefois des mots qui seront très mal interprétés. D'ailleurs, il ne fallait même pas les dire, on n'a pas su les dire, on n'a pas su les exprimer. C'est jamais bon. C'est une erreur que de chercher à se relever tout seul. Si vous voulez vous relever, alors vous avez besoin de toute la grâce de Dieu pour cela. Et si vous avez besoin de vous élever pour aller chercher la présence de Dieu, alors n'allez pas dans votre chambre haute, mais allez dans la sienne. Allez là où il se trouve et vous serez bénis sans aucun doute. Comme ça, ça marchera. Sinon, ça ne marchera pas. On ne peut pas se relever tout seul. Plus tard, un homme qui s'appelle Élie va monter dans une chambre haute. Élie a vécu quelque chose d'assez particulier. Et je vous invite à regarder avec moi son histoire dans le premier livre des Rois. Dans le premier livre des Rois, au chapitre 17, Dieu appelle Élie à ordonner la sécheresse sur tout le pays. Élie s'en va vers le roi Achab en lui disant « Sinon à la parole de l'Éternel, point d'eau sur le pays. » Et ça va durer pendant des années. Sauf que vous supportez la sécheresse un an, 2 ans c'est plus difficile et 3 ans c'est la famine, bien évidemment, qui est installée. Et Dieu va prendre soin de Élie, il va l'envoyer tout d'abord auprès d'un torrent, et il va être abreuvé à ce torrent. Il a même ordonné à des corbeaux de lui apporter de la nourriture assez régulièrement. Le matin, le soir, les corbeaux lui apportaient de la nourriture. Sauf qu'à un moment donné, le torrent va être à sec, le torrent de Kérit, il n'y a plus rien. Alors la parole de l'Éternel lui est adressée en disant « Lève-toi maintenant et va à Sarepta. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. » Donc il y va. Et le texte dit ceci avant d'arriver au point que nous avons cité à l'écran. Il est dit ceci. Il appela cette veuve et lui dit, verset 3, premier livre des Rois, chapitre 17, pardon, et verset 10. « Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et là, elle n'est pas d'accord. Elle lui répondit « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » Elle est dans une drôle de situation, cette femme, vous ne trouvez pas? Déjà pauvre de son état, veuve de surcroît, et puis on a quand même l'impression que moralement, elle ne va pas bien. Hein, elle est en dépression. Elle est totalement en dépression. Vous la rencontrez, vous la voyez, elle ramasse quelques bouts de bois, on sent que, ben voilà, de toute façon, la misère atteint tout le monde. Et quand vous lui demandez juste l'hospitalité, quelque chose, elle dit, écoute, débrouille-toi, hein, ton Dieu est vivant, débrouille-toi. Hein. Tu sais ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de préparer mon dernier repas, puis après, avec mon fils, on va mourir. Vous imaginez la vision ? Pauvre femme, elle a rien. Elle a quasiment plus rien. Elle a absolument aucun avenir. Elle voit pas du tout son avenir. Pour elle, il n'y a pas d'avenir. Il n'y a absolument rien devant elle. L'attitude d'Élie est assez incroyable. Il va lui dire, écoute, tu fais ce que tu as dit. Tu vas, tu prépares le gâteau que tu voulais préparer avec le peu de farine et d'huile que tu as, mais tu en prépares d'abord un pour moi. Certains pourraient dire, c'est passablement égoïste quand même. Non, non, tu en prépares un pour moi, et après, tu en prépares pour toi. Et Élie lui dit, je te promets, Dieu te dit, jamais tu ne manqueras de nourriture dans ta maison, parce que précisément, l'Éternel est vivant. Cette femme va devoir faire un acte de foi. Et ça, c'est incroyable, hein, mais elle fait cet acte de foi. Finalement, en faisant cet acte de foi, c'est quelque chose d'assez spectaculaire qui se passe. Et Élie va habiter chez cette femme un bon moment. Vous avez compris que c'était une maison à étage. Et à un moment donné, on lit au verset 17. « Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. » Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus de respiration en lui. Il meurt. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour me rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Elle reste dans cette forme de culpabilité. Alors, on ne sait pas du tout hein, comment le fils était né. Mais par contre, on a le sentiment qu'elle vit avec un secret. Il y a quelque chose qui n'est pas avoué, qui n'est pas dit, qui n'est pas clair. Et quand l'enfant meurt, elle y voit un jugement de Dieu. C'est ça, hein ? Veux-tu me rappeler le souvenir de mon iniquité ? Elle a l'impression que son fils est mort parce que Dieu lui reprochait son péché. Est-ce que c'est en relation avec la naissance de son fils ? Relation adultère ? Allez savoir. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être tout. Sauf que, on ne sait pas, et Élie ne sait pas, hein ? Il ne connaît pas l'histoire de cette femme. Mais ce que je remarque, c'est que Dieu a envoyé Élie vers cette femme, pas pour lui donner à manger, pour guérir son cœur, pour guérir son âme. Il a envoyé Élie, finalement lui donner à manger, ça a été le prétexte. Le but était plus profond, le but c'était aller au fond des choses. Alors quand Élie arrive, il n'est pas là pour lui dire, Dieu m'a dit de venir vers toi parce qu'il va guérir ton cœur. Non, on n'a pas fait la psychologie, hein. On a vécu les choses comme elles se présentaient. Et l'enfant meurt. Et là, en fait, c'est elle qui ouvre son cœur. J'ai le sentiment que quelquefois, on a prononcé des paroles de mort sur soi, sur les autres, hein, sur les autres, hein, ou sur soi. Des paroles de mort. On n'a pas cru à la rédemption, on n'a pas cru au salut, on n'a pas cru à la vie, on n'a pas cru que Dieu pouvait guérir, on n'a pas cru. Donc si on ne croit pas que Dieu guérit, ça veut dire que finalement, on croit qu'on restera malade toute sa vie. Parole de mort. Parole qui engendre la destruction. Quelquefois, on a entendu, j'ai entendu des personnes me dire, mais jamais Dieu me pardonnera. Parole de mort. Parce que si Dieu ne te pardonne pas, qui te pardonnera ? Donc tu vas en enfer. Tu t'en sortiras jamais. Parole de mort. Combien de fois avons-nous entendu également des personnes dire « mais c'est trop compliqué, mon histoire est trop compliquée, et puis ça se fera pas en 5 minutes, ça se fera pas en 10 secondes, ça se fera pas en 1 an, je sais même pas si je récupérerai tout ce que j'ai perdu, moralement, intérieurement, jamais je serai à nouveau reconstruit, j'ai trop été blessé, parole de mort, mon frère, ma sœur, parole de mort. Dieu est un Dieu de vie. Amen. Dieu est un Dieu de vie. Finalement, cette femme n'a pas besoin du diable, elle se débrouille toute seule. Elle s'enterre toute seule. Elle n'a pas besoin que le diable lui fasse un croche-pied. Hein. Les paroles sortent de son cœur. Je ne sais pas comment elle a vécu. Je ne sais pas ce qu'elle ressent, ce qu'elle ressentait jusqu'à ce jour-là. Mais évidemment, c'est une situation difficile, évidemment. Et quand Et Élie arrive dans cette maison. Il arrive dans cette maison pour entendre une femme lui dire « C'est trop dur. C'est quoi la leçon si mon fils meurt? Ça sert à quoi? Déjà, j'ai plus rien. Déjà, je me débrouille toute seule. Imaginez, je l'ai élevé toute seule. Personne ne m'a aidé. Et maintenant, il meurt. Mais ça sert à quoi? Combien de fois l'avons-nous dit, ça sert à quoi? Je passe par un tunnel sans fin, ça sert à quoi? Derrière tout cela, il y a évidemment une leçon que Dieu peut prodiguer. Cette femme vit dans la culpabilité. On comprend qu'elle vit dans la culpabilité, on comprend qu'elle vit peut-être même dans le remords, dans la souffrance. Elle est malheureuse, cette femme. Qui peut la relever, sinon Dieu? Alors Élie fera une chose, parce que c'est un combat qui est spirituel aussi. Élie prend l'enfant, et lui devait vivre à l'étage, vous l'avez compris, hein. Elle devait vivre en bas, lui vivait en haut. Qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre le fils et il va le monter dans la chambre haute. Je suis persuadé que ce n'est pas par hasard que c'est une chambre en hauteur. Je suis persuadé parce que dans cette chambre haute, il va y avoir une sacrée bataille qu'il va falloir livrer. Et Élie va livrer cette bataille. Il n'est pas au rez-de-chaussée, dans le salon, devant le corps de cet enfant mort, en essayant de consoler la femme en lui disant « Qu'est-ce que tu veux? C'est la vie, un jour ou l'autre, il faut bien mourir. » Non ! Il dit « Attends, on se calme. Donne-moi l'enfant et moi je vais aller combattre plus haut. » Les batailles, c'est toujours plus haut que ça se passe, bien-aimé. C'est pas en bas, c'est pas au ras du sol, c'est plus haut que les batailles se livrent. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités dans les lieux célestes. Si vous êtes ressuscité avec Christ, on l'a lu dans Colossiens, alors affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'apôtre Paul dira aux Éphésiens que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Vous êtes assis en haut, dans la chambre haute. Vous n'êtes pas assis en bas, là où règne la mort et où les paroles de mort se succèdent les unes après les autres. Finalement, Élie va livrer bataille. Élie va trouver là aussi la solution. Il nous est dit qu'il va monter dans la chambre haute où il demeurait. Il va coucher l'enfant sur son lit et il va invoquer l'Éternel. Et il va dire « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Invoqua l'Éternel et dit « Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » Et l'Éternel écouta la voix d'Élie, c'était pas gagné. Hein. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Gloire à Dieu. Une résurrection. Amen. Si vous vivez avec des paroles de mort, vous avez besoin d'une résurrection. Vous aussi, vous avez besoin d'une résurrection. Finalement, pourquoi? Parce que très souvent, nos malheurs se transforment avec le temps en colère. Et la colère, en général, ne produit que de l'amertume. Et l'amertume, c'est la mort. C'est la mort, on ne s'en sort pas. Quand on vit comme cela, c'est dans la chambre haute que le combat a été gagné, bien aimé. Il faut monter à la chambre haute si vous êtes rempli de ces paroles de mort pour ressusciter. Et le Seigneur est là pour le faire. Il peut le faire, il veut le faire, il est capable de le faire. S'il l'a fait du temps d'Élie, il peut le faire avec vous. Le défi, c'est de vaincre ces paroles qui détruisent votre vie. Celui qui viendra après Élie, Élisée, va vivre curieusement quelque chose d'un petit peu similaire. Dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 4, et du verset 21 au verset... c'est un texte qui va un petit peu plus loin... Du verset 8 jusqu'au verset 37. On retrouve l'histoire d'Élisée. En deux mots, Élisée passe régulièrement dans la région. Un couple, une femme de distinction qui habitait dans cette région-là, dit à son mari, régulièrement le prophète passe par ici, j'aimerais qu'on lui construise une chambre haute. Et comme ça, à chaque fois qu'il passera par là, il sera tranquille, il pourra se reposer. On y met une table, on y met une chaise, on y met un chandelier, on y met un lit. Il restera tant qu'il veut, c'est notre hôte, on le garde, mais il faut qu'il soit à l'aise. Une chambre en hauteur, une chambre haute. Une femme spirituelle, une femme sage, une femme intelligente, un couple bénissant. Et puis, au bout d'un certain temps, Élisée va se sentir un petit peu gêné de tant d'hospitalité. Alors, il veut rendre l'appareil, mais que faire? Et on va se rendre compte qu'il n'y a pas d'enfant dans cette famille. Non, ce couple n'a jamais eu d'enfant. Alors, Élisée pense lui faire un cadeau en lui disant « Écoute, Dieu va faire un miracle. L'année prochaine, vous aurez un fils. » Et la réaction de cette femme est étonnante. Immédiatement, cette femme dit « Non, 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 non. » C'est curieux, tu ne veux pas d'enfant. « Non, 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 ne me trompe pas, ne trompe pas ta servante. » Ah, ça ne veut pas dire la même chose. Ça veut dire que peut-être le temps de l'espoir s'est éteint. On a espéré pendant des années, jamais un enfant est venu, donc on a fait son deuil. L'a-t-elle fait vraiment ? On a fait son deuil. Et dans le fond, voilà, la vie sera faite comme ça. Après tout, ce n'est pas dramatique. Et là, promettre un enfant, c'était certainement réveiller, raviver une douleur. Alors elle ne veut pas. Et Élisée veut, il semble que Dieu veuille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, quelques temps après, elle apprend qu'elle est enceinte et effectivement, l'année d'après, elle a un fils. Quelle joie ! Imaginez un peu. Je ne sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans sont peut-être passés ou plus. Elle a un fils. Quelle joie ! L'enfant grandit, comme tous les enfants. On l'imagine tout beau. Et puis, à un moment donné, il est avec son père dans les champs et là, il se passe quelque chose. Peut-être qu'il prend une forme d'insolation. « Ah, j'ai mal à la tête, ma tête, ma tête. » On le ramène à la maison. Et la mère prend son enfant, est-ce qu'il fait de la fièvre, des convulsions, allez savoir. Le fait est qu'il meurt sur ses genoux. Imaginez le drame. Il meurt sur ses genoux. Cette femme, elle est effondrée. Hein. Comment vous voulez survivre à ça ? Elle avait peut-être fait son deuil. En tous les cas, il ne fallait peut-être pas réveiller cette chose-là. Est-ce qu'il n'y a pas des expériences que l'on a dû vivre ? Et que l'on n'a jamais compris pourquoi il a fallu que je vive cela. Incompréhensible. Pourquoi il a fallu passer par là ? Pourquoi est-ce qu'il faut que je passe ? J'y suis encore, par cette situation, cette circonstance. Jamais j'aurais dû connaître quelque chose comme ça. C'est inhumain de faire vivre à un homme, à une femme, des choses pareilles. C'est inhumain. Aujourd'hui, quand on regarde la Terre, quand on regarde le monde, il y a des personnes qui vivent des choses totalement inhumaines. On parle de génocide, on parle de guerre, on parle de réfugiés. Aujourd'hui, et ils sont sans Dieu pour beaucoup, c'est inhumain. Cette femme a quand même la sécurité d'un Dieu qui n'est pas très loin. Sauf que on a vécu de ces expériences et on les a subies. On ne les a pas voulu, on les a subies. On s'en serait bien passé, évidemment. Quand l'enfant meurt, il y a de quoi devenir fou. Cette femme fait une chose incroyable. Parce que elle veut s'accrocher, elle ne veut pas renoncer. Et là, elle prend l'enfant, et je vous résume, elle va le porter sur le lit, dans la chambre haute, là où le prophète avait l'habitude de dormir. Elle ferme la porte, elle demande à son mari la permission d'aller trouver le prophète. Son mari lui dit « Mais il y a un problème ?» « Non, non, tout va bien. » « Tout va bien. » Et puis elle y va. Quand le prophète voit arriver cette femme, il envoie son serviteur en lui demandant « Il y a un problème ? Tout va bien ?» Et au serviteur, il dit « Non, non, tout va bien. » Par contre, quand elle est devant le prophète, là, elle se jette à ses pieds. Elle hurle sa douleur, sa souffrance. Même le prophète n'était pas prévenu de ce qui allait arriver, de ce qui allait se passer. Et là, le prophète comprend qu'il y a quelque chose qui est terrible, pas normal même, pas normal. Alors, qu'est-ce qu'il décide ? D'envoyer son serviteur avec son bâton. Et il dit à son serviteur, tu vas aller dans la maison de cette femme, tu vas poser mon bâton sur l'enfant, il se réveillera. Et l'attitude de la femme est surprenante. La femme dit, non, 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 tu peux l'envoyer ton serviteur, ça, non, mais je veux que toi tu viennes. C'est toi qui dois venir, c'est pas le moment d'envoyer quelqu'un d'autre. Hein. C'est toi qui m'as dit un jour que j'aurai un enfant. C'est toi qui as dit que dans la famille, on entendrait balbutier un enfant et on serait tellement heureux de cela. Alors excuse du peu, mais je voudrais que ce soit toi qui vienne. Et s'il ne vient pas, je suis sûr qu'elle fait un sitting, hein, un siège, là, elle ne part pas, hein, elle reste. Il faut qu'il y aille. Finalement, en mettant l'enfant dans la chambre haute, c'est comme si elle allait chercher un refuge à l'endroit d'où était venue la promesse, c'est-à-dire la promesse m'est venue de Dieu, il faut que j'aille chercher, comprendre ce qui s'est passé auprès de Dieu. C'est là-haut que je trouverai la solution, c'est pas ailleurs. Elle avait déjà fait son deuil, mais là c'est pire, parce qu'elle avait fait son deuil sur un enfant qu'elle n'aurait jamais. Mais devoir passer une deuxième fois par cette situation-là en disant maintenant je vais faire le deuil sur un enfant auquel j'avais renoncé, que j'ai finalement eu et que finalement m'échappe, c'est insurmontable. Il me semble que c'est totalement insurmontable. Alors elle s'est accrochée et elle a réclamé le prophète. Je pense que le prophète, ça a été une drôle de bataille qu'il a fallu mener. Mais il y a été. Je me dis que cette chambre haute a été le lieu d'une bataille, il a fallu combattre. Hein. Autant Élie a combattu contre les paroles de mort, il fallait que la vie sorte. Autant là, il fallait se battre contre cette situation totalement incompréhensible. Personne ne pouvait comprendre cela. Même le prophète n'a pas été prévenu de ce qui est arrivé. C'est comme un ouragan, une vague qu'il prend en pleine face. Mais qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il vous est arrivé cela, frères et sœurs, ne renoncez jamais. Mais allez dans la chambre haute, lieu de refuge, trouvez le soutien de Dieu, il va vous expliquer, il va vous donner la solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ni plus ni moins un miracle et une résurrection encore. Alléluia. Il nous est dit que le prophète est entré dans cette chambre et il a arpenté la pièce. Il avait l'habitude d'être dans cette chambre, mais je pense que l'ambiance était moins pesante les fois d'avant. Sauf que là, il a devant ses yeux un enfant mort. Un pasteur fait souvent des enterrements, malheureusement. Mais le pire, c'est quand vous avez un cercueil d'enfant devant vous. C'est le pire. Cet homme a un enfant devant lui, mort. Et il doit lutter, il doit combattre, il doit prier. Il faut qu'il se passe quelque chose. Accablerais-tu, là encore, cette femme? Pourquoi une telle chose? Alors il a lutté, il a prié. Et finalement, il a obtenu gain de cause. Élisée entra, ferma la porte sur eux deux, et il prie à l'Éternel. Et il a prié, il alla çà et là par la maison, il pria encore. Et la Bible dit qu'à un moment donné, l'enfant éternua cette fois, et il ouvrit les yeux. Et Élisée appela son serviteur Géasi, et dit « Appelle cette Tsunamite ». Géasi l'appela. Elle vint vers Élisée, qui dit « Prends ton fils ». Elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, et elle prit son fils, et elle sortit. Béni soit Dieu pour ces promesses que l'on peut serrer contre nous et qui sont toujours oui et amen par Dieu. Amen. Béni soit Dieu pour ce qu'il donne. Job, vous connaissez son histoire, a dit un jour, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Mais souvenez-vous, comment se termine l'histoire de Job? L'Éternel a redonné. Amen. L'Éternel a redonné. Ne restons pas simplement sur l'idée que Dieu donne et Dieu reprend, parce que je crois que quand Dieu a repris d'une main, il a été capable de redonner d'une autre encore. Et il peut donner au double de grâce. Toutes ces épreuves, pourquoi? Pour que son nom soit glorifié. Vous rencontrerez des personnes qui ont vécu la même chose que vous et qui sont par terre. Si vous êtes par terre, vous n'allez pas les aider. Mais si vous êtes debout, alors vous pourrez les aider. Et leur dire, c'est Dieu mon refuge, c'est lui qui a apaisé mon âme, c'est lui qui a délivré mon cœur, c'est lui qui m'a donné ce qu'il me fallait. Amen. Je termine sur la chambre haute, le fameux cénacle. On pense que c'est là que Jésus a instauré la scène et c'est là que les disciples sont revenus au moment de la Pentecôte. On pense que c'est au même endroit. Qu'est-ce qui s'est passé à la Pentecôte? Le livre des Actes nous le dit. Après que Jésus soit monté au ciel, Actes chapitre 1, verset 12, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Et quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Dans la chambre haute avec Jésus, on a été dans l'intimité de Jésus. Et vivre un instant avec lui, c'est un privilège. C'est un privilège, frères et sœurs. Et puis on a compris que cette chambre haute pouvait être un piège, le lieu de la solitude, comme David, le lieu où on se replie sur soi et on dit « j'ai pas besoin de conseils, j'ai besoin de personne, laissez-moi tranquille, ne restez pas dans cet état-là ». C'est un piège et vous allez vous faire du tort, vous allez vous faire du mal, vous n'en sortirez pas tout seul. On a compris que quelquefois, il y avait des batailles à livrer et c'était dans la chambre haute, dans la prière, auprès de Dieu, avec lui, avec sa grâce et avec son aide qu'il fallait lutter pour vaincre. Ces paroles de mort, et Élisée nous a appris qu'il ne fallait jamais renoncer, toujours s'accrocher, même si ça prenait du temps, il fallait toujours s'accrocher. Et puis enfin, dans la chambre haute avec les disciples, Ça a été un lieu d'expérience. Pas simplement un lieu de refuge, pas simplement un lieu de bataille, pas simplement un lieu de combat ou d'intimité, mais un lieu d'expérience, un endroit où on a vécu des expériences. Imaginez la Pentecôte, souvenez-vous de la Pentecôte. Actes chapitre 2, tout à coup il vint du ciel, comme un bruit impétueux, qui remplit toute la maison, un vent violent remplit toute la maison. Des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux et ils se mirent à parler de nouvelles langues. Quelle expérience ! Ça a troublé la foule qui était rassemblée à Jérusalem, mais ça les a bénis, hein. Sans aucun doute, ça les a bénis, chacun d'entre eux. Frères et sœurs, est-ce que vous n'avez pas envie encore d'une visitation de Dieu, d'un rendez-vous encore exceptionnel ? Ça ferait tellement de bien, n'est-ce pas ? Ce serait tellement bien. Et pourquoi on devrait utiliser le conditionnel ? Ce serait tellement bien. Et pourquoi on ne dirait pas « ce sera tellement bien ». Ça va être tellement bien quand je vais retrouver dans ma chambre haute mon intimité avec Dieu et que je suis prêt à vivre encore une expérience nouvelle. Je crois que vous avez vécu de belles expériences et si nous sommes chrétiens, nous avons tout au long de notre vie vécu de belles expériences. Mais ne nous lassons pas d'espérer en des expériences nouvelles. Parce que finalement, tout ce qui n'est plus nouveau nous lasse. Hein. Un jour ou l'autre, on se lasse. Hein. La mode, la musique, tout lasse. Mais les expériences nouvelles, par définition, ben voilà, ça fait du bien, ça rafraîchit, ça encourage. Que Dieu nous donne de vivre de telles choses. Frères et sœurs, je peux vous poser une question personnelle ? Elle est où, votre chambre haute ? Elle n'est pas détruite, j'espère. Hein ? Elle n'est pas en mauvais état ? Il n'y a pas des araignées sur la poignée de la porte, hein ? Ce ne serait pas terrible. Hein ? Est-ce qu'elle est encore habitable ? Si elle est en mauvais état, chantier restauration cette semaine. Hein ? Appliquez-vous à réparer tout ça. Si vous avez perdu la clé, vous avez la chance. Il y a un serrurier là-haut qui a gardé le double et il va vous la donner ce matin. Et si vous l'avez, et si vous avez l'habitude d'y aller, continuez. Mais si vous perdiez l'habitude d'y aller, retournez-y. Retournez-y. Ma conclusion, c'est Habacuc. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Amen. Hier, lorsque nous étions à l'Argentière, il y avait un jeu sur la montagne, pour connaître les fleurs, pour connaître les roches, etc. Et à un moment donné, donc quelques-uns ont joué, et une question qui est sortie, un randonneur, pour marcher et grimper 1000 mètres de dénivelé, va mettre à peu près 3 heures. C'est ça ? À peu près ? 4 heures ? Ouais, moi, mais vous êtes particulier. Ouais. Eux, ils ont mis 3 heures, il me semble. Ouais, donc ils vont pas vite. Hein. Donc, mais à peu près 3 heures, combien un chamois mettra pour monter ces 1000 mètres ? Et il y avait trois solutions. Il y avait 1h30, non, 1h, 30 minutes, 15 minutes. Combien vous dites ? Ouais, 10-15 minutes. 10-15 minutes. Vous aimeriez pas avoir des pieds de chamois, vous ? Pour grimper plus vite, plus haut ? Ben, je vais vous dire, vous avez de la chance. Parce que ce matin, c'est cadeau de Dieu, il va faire un miracle, vous allez les avoir. Pourquoi ? Parce que le but, c'est d'aller sur les lieux élevés. Le but, c'est pas de s'enfermer au météore, à une maison, en disant, voilà, je suis loin de la ville, tout va bien. Non, mes frères et sœurs, c'est quand même dans la chambre haute que Dieu nous attend. C'est là qu'il nous élève. Si on ne veut pas s'élever, on vit pas comme Dieu le veut. Si on souhaite s'élever, si on veut aller plus haut, toujours plus haut, c'est ça le défi, frères et sœurs, toujours plus haut, on fera que de plus belles expériences et Dieu sera glorifié. Au demeurant, il sera glorifié. Alors que Dieu nous aide à aller plus haut. Et j'insiste, retrouvez le chemin de votre chambre haute Et allez-y tout à l'heure, allez-y ce soir, allez-y demain. Profitez-en toute la semaine et la semaine qui suivra et celle qui suivra encore jusqu'au retour de Christ. Il y a des grâces qui vous attendent, des bénédictions qui sont là. Il se passe toujours quelque chose dans une chambre haute. Allez-y et vous verrez et vous expérimenterez. Amen. On se lève ensemble et on demande à Dieu sa grâce. Alléluia, Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi, nous réclamons ta grâce, nous réclamons ta bénédiction parce que nous comprenons au travers de ce que ces hommes de la Bible ont vécu, ces personnalités de la Bible ont vécu, que quelquefois nous manquons le rendez-vous avec toi. Tu nous attends dans une chambre haute et nous sommes et nous restons en bas. Nous ne grimpons pas, nous n'allons pas plus haut. Pourtant, tu dis toi-même dans ta parole que tu veux nous élever plus haut et que tu nous as promis un héritage. Un héritage, et il faut aller le chercher vers ces lieux élevés. Alors donne-nous d'être vigilants pour notre âme, d'être attentifs, de prendre soin de notre âme et de nous permettre d'aller plus haut. Nous voulons vaincre ces paroles de mort qui détruisent l'âme. Nous voulons vaincre ces amertumes, ces angoisses, ces colères qui produisent également beaucoup de peine, de solitude et de souffrance. Et nous voulons vaincre toutes ces incompréhensions lorsque nous sommes affligés de ne pas comprendre, de ne pas réaliser, de ne pas cerner ce qui nous arrivait. Merci de donner la victoire quand même à nos cœurs. Nous comptons sur ta grâce et nous te bénissons pour ce que tu as fait ce matin. Merci de nous garder, de nous raccompagner dans ta paix. Merci de bénir notre rendez-vous tout à l'heure où l'Évangile sera prêché. Nous comptons sur ta grâce. Tu guériras les malades, tu sauveras les perdus et tu te glorifieras encore. Que ton nom soit loué. Amen.